Président, bon, vous avez, je pense que la motion a été distribuée, vous l'avez sous les yeux. Je voudrais dire un mot en introduction de la tonalité de cette motion, qui n'est pas une motion à caractère polémique ou politique, comme certains l'ont remarqué pour des raisons électorales bien comprises. Je me suis retiré du débat national, donc je n'ai pas du tout l'intention de faire un coup politique, encore moins un positionnement. Par contre, je suis toujours décidé à me mobiliser pour le territoire et en particulier pour ceux qui, sur ce territoire, se battent pour le faire vivre avec détermination. Et c'est ce qui m'a amené à vous proposer cette motion, puisque les mesures qui sont dans la loi de finances, en particulier dans l'article 59 de la loi de finances consacrée au logement social, sont très inquiétantes pour les organismes de logements sociaux en général et pour ceux du département en particulier, peut-être même plus pour les organismes de logement social de ce département que la moyenne des organismes nationaux. Ces mesures qui sont proposées, en particulier une baisse autoritaire de l'APL et surtout des loyers encaissés par les organismes de l'HLM, ont touché les trois organismes d'HLM qui agissent dans les Hautes-Pyrénées. Vous savez qu'il y a trois organismes dans les Hautes-Pyrénées, du plus petit vers le plus grand, la CEMI, qui est une société d'économie mixte de la ville de Tarbes, qui compte environ 1300 logements et qui n'a pas construit depuis un certain nombre d'années de logements neufs. Tromologie, qui compte environ 3500 logements dans le département et qui en construit bon an mal an 30 à 40 par an, et l'OPH, votre office départemental, qui celui du département, celui de l'Assemblée départementale, qui compte un peu plus de 7500 logements, construit environ 130 à 150 par an et en rénove 2 à 300 chaque année. Alors pourquoi les chiffres qui sont dans cette motion touchent essentiellement l'OPH, c'est que l'OPH, comme je viens de dire à l'instant, est l'office public de Haute-Pyrénées, du département des Hautes-Pyrénées. Si je le préside bénévolement, je tiens à le préciser, par les temps qui courent, c'est toujours mieux de le dire, c'est parce que je suis conseiller général et que vous m'avez désigné pour ça, et qu'il y a 7 conseillers départementaux au conseil d'administration de l'OPH, dont une préside la commission d'attribution, et donc les liens structurels entre l'OPH et le département des Hautes-Pyrénées sont extrêmement étroits, et que c'est à lui que nous devons, que l'OPH doit rendre compte, de la même façon que la CEMI doit rendre compte au conseil municipal de Tarbes, ou que la Promologie doit rendre compte à ses actionnaires. Mais, je le répète, si les chiffres qui sont dans cette motion concernent essentiellement l'OPH, pour les raisons que je viens d'indiquer, les autres seront concernés et les conséquences risquent d'être d'une brutalité énorme, y compris, je le dis, même si cela encore sans esprit public, compte tenu des difficultés financières que tout le monde connaît de la CEMI, ça peut même être un coup mortel pour cette entreprise, chacun le sait, enfin, entreprise, cet organisme de logement social. Pour ce qui concerne l'OPH, les mesures autoritaires de baisse de loyer, c'est-à-dire de baisse de recettes, seraient de l'ordre de 4 millions, entre 3,5 millions et 3 millions, et 4 millions d'euros de baisse de recettes pour l'OPH, ce qui signifie la fin de son excédent, puisqu'il se trouve que l'excédent est de l'ordre de 4 millions dans les comptes que nous allons arrêter à la fin de l'année. Donc c'est 80 à 90% de notre résultat qui serait rayé d'un trait de plume par les mesures gouvernementales. Or, ces 4 millions, nous ne les mettons pas en réserve dans un compte de je ne sais quelle banque privée. Nous les réinvestissons chaque année, puisque je l'ai dit tout à l'heure, nous construisons 140 à 150 logements par an et que nous en rénovons 2 à 300, notamment des réhabilitations thermiques. Et donc, c'est notre capacité à investir qui serait complètement remise en cause avec ces mesures. Or, 4 millions d'euros réinvestis dans l'économie du département, c'est en fait beaucoup plus que ça en termes d'impact, parce que par le biais des emprunts, cet effet de levier de 4 millions représente, bon an, mal an, aux alentours de 25 à 30 millions d'euros pour l'économie du bâtiment dans le département de Hautes-Pyrénées. Et donc, ces mesures seront catastrophiques. Et elles sont catastrophiques, et d'autant plus, si j'ose dire, que l'OPH est un organisme qui assume sa mission de logement social, et en particulier de logement très social, ce que ne font pas tous les organismes en France. Nous avons, nous, entre 61 et 62% de ce qu'on appelle des APLisables, c'est-à-dire des listes de gens, de locataires éligibles à l'APL, alors que la moyenne nationale est à 54%. Ça veut dire qu'il y en a qui sont bien en dessous. Donc on est très au-dessus de la moyenne nationale, et nous sommes d'autant plus pénalisés que, effectivement, puisque c'est des logements éligibles à l'APL qui vont être, des locataires éligibles à l'APL qui vont être touchés par ces baisses de loyer. Donc le fait qu'on soit très social va nous pénaliser. J'ajoute que le fait que nous soyons aussi très modérés sur les loyers, puisque je fais le parallèle à ce que se disait le président à l'instant à propos de la fiscalité dans le département, ça fait 5 ans qu'on n'y a pas touché. C'est la même chose à l'OPH, ça fait 4 ans qu'on n'a pas touché aux loyers, qu'on n'a pas augmenté les loyers, et nous en sommes d'autant plus pénalisés qu'au fond, si on avait augmenté nos loyers ces dernières années, on aurait des réserves qui nous permettraient sans doute de faire face à cette offensive ou à cette, j'allais dire, mais je retire le mot agression, en tout cas, à ces conséquences dramatiques de ces mesures. Voilà. Donc, c'est pour appeler l'attention de l'opinion et des pouvoirs publics sur le sujet que je suggère cette motion. Comment on en est arrivé là? Si j'ose dire, je vais faire un petit peu de politique, mais sans être politicien et sans être polémique. Le gouvernement nous dit, regardez sur les ordonnances en matière de droit du travail cet été, on a fait deux choses. Premièrement, on a fait ce qu'on a dit, parce que c'était dans le programme, personne ne peut être surpris, c'était annoncé, et donc on fait ce qu'on a dit. Et d'autre part, on a mené une concertation avec les partenaires sociaux pendant tout l'été, et il y a eu des dizaines et des dizaines de réunions. Alors après, on pense ce qu'on veut des ordonnances. Et c'est aussi mon cas, mais je ne le vivrai là-bas, mais de fait, il a fait ce qu'il avait dit, et de fait, il a fait une négociation sociale. Et de ce point de vue, j'ai que la méthode n'est pas critiquable. Eh bien, dans la matière de logement social, ça n'est ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que ces objectifs n'étaient pas affichés du tout dans le programme. Je me suis livré à cet exercice pour vous, de nouveau, cette semaine. J'ai relu le programme d'Emmanuel Macron, il n'y a rien de tout cela dans son programme, rien. J'ai relu même les fiches logement, un travail de citoyen appliqué, il n'y a rien de tout ça, donc ce n'était pas annoncé, et il n'y a eu aucune concertation avec les organismes d'HLM sur le sujet. Et moi, je le dis très sincèrement, si le gouvernement aujourd'hui nous disait, voilà, quels sont mes objectifs, on dit qu'il trouve que, enfin, le président l'a dit lui-même la semaine dernière, à l'anniversaire de la Fédération du bâtiment, il a dit, un, je trouve qu'il y a trop d'organismes sociaux en France, très bien, on diminuer le nombre, honnêtement, ils l'ont fait, et c'était bien plus compliqué en diminuant le nombre de communautés de communes, c'était infiniment plus compliqué. Si on doit diminuer le nombre de réunions HLM, ce n'est pas compliqué à faire, il n'y a pas besoin de passer par ces mesures. Deuxièmement, il y a des organismes qui ont beaucoup de réserves. Très bien, c'est vrai. Quelques dizaines sur les centaines d'organismes HLM qui sont en France, on va dire qu'il y en a une cinquantaine qui ont des réserves, dont quelques-uns qui ont des grosses réserves. Mais ce n'est pas le cas, par exemple, des quatre des trois qui sont dans les Hautes-Pyrénées. Quand je ne connais pas l'état des réserves de Promolégie, mais en tout cas des deux que municipales de Tarbes et départementales. Et donc il n'y a pas de raison de toucher à ceux qui n'ont pas de réserve pour sanctionner ceux qui en ont beaucoup. Et donc il dit qu'il n'y a pas de circulation du capital, il y a trop d'organismes. Puis je sais que derrière aussi, ils considèrent que 2 points de PIB pour le logement, dont 1 pour, point pour l'APL, c'est-à-dire 20 milliards d'euros, c'est beaucoup, même si dans ces 2 points de PIB, on compte des carottes et des navets et qu'il y a plein de choses. Et par exemple, il y a dedans la TVA 5,5 pour les travaux des artisans dans les logements que personne ne propose de remettre en cause. Donc, si on veut aussi limiter l'impact de l'APL, on peut très bien ouvrir une négociation pour savoir comment on fait pour maîtriser budgétairement ces sujets. Donc je le dis, si c'est ça les objectifs du gouvernement, qu'ils les mettent sur la table, qu'ils organisent une négociation, et moi je suis de ceux qui, d'une manière constructive, diront d'accord, on s'y met, on trouve une solution tous ensemble, mais celle qui est proposée là est extrêmement centralisée. C'est là-dessus que je terminerai. On est face à une mesure, là aussi je pèse mes mots parce que je ne veux pas être brutal, de caractère un peu technocratique au sens où ça a été inventé à Bercy pour des raisons budgétaires, et on a pris une mesure qu'on applique uniformément sur tous les organismes de chaîne de France et de Navarre. Or, comme je le disais, il y en a des gros, des petits, il y en a des dodus, il y en a des exemples, il y en a qui ont été raisonnables sur les loyers, il y en a d'autres qui ne l'ont pas été, il y en a qui ont des réserves, il y en a qui n'ont pas. Et donc, il y en a qui sont dans des marchés tendus, comme dans les métropoles, il y en a qui sont dans des marchés assez mous, comme c'est le cas en milieu rural. Et on ne peut pas traiter ces organismes d'HLM de la même façon. Donc si le gouvernement veut atteindre ses objectifs, il faut qu'il retire une mesure unique, uniforme sur l'ensemble du territoire et qu'il ouvre une négociation sur un dispositif diversifié et adapté. En tout cas, c'est le sens de la motion que je vous propose.
Merci, Jean Gavani. Donc, rappel de règlement, c'est une intervention par groupe politique. Qu'est-ce qui demande de la parole? David Larzabal.
Merci Monsieur le Président. Moi je me réjouis de la prise de conscience de ce qu'il risque de se passer avec ce projet de loi des finances. Il y a 3 semaines ici même en commission permanente, je vous avais donc alerté sur ce projet de loi des finances qui est catastrophique. Et il y a 3 semaines, on m'avait dit presque que je ne savais pas compter, mais bon, entre temps tout le monde a pris la calculette, j'ai l'impression que tout le monde a recompté. Moi, je suis content aussi de voir M. Glavany, une fois n'est pas coutume, que donc on se rejoint, au moins là-dessus. Par contre, donc, j'ai lu votre motion, M. Glavany, et à mon sens, sa conclusion est un peu molle par rapport à ce que vous venez de dire. Parce que vous venez de dire des choses là à l'oral qui me conviennent, mais je souhaiterais, moi, qu'elles soient mises par écrit. Parce que, effectivement, dans les considérants, on va dire que tout va à peu près bien, mais il manque des considérants. Il manque des considérants parce que ce que vous avez dit sur les zones tendues et distendues n'apparaît pas dans les considérants. Ce que vous avez dit sur les situations financières des différents organismes à l'oral n'apparaît pas dans les considérants. Il y a aussi, moi je trouve assez scandaleux, vous l'avez noté vous-même, mais je trouve assez scandaleux, c'est la première fois quand même, que le gouvernement dans ce pays s'attaque aux recettes et non pas aux bénéfices pour pomper de l'argent aux entreprises. Et ça, c'est scandaleux. Alors, moi, de voir cette conclusion qui, franchement, je n'en ai pas trouvé le sens de la conclusion, réunie à cette ensemble de plénières, conscient des efforts budgétaires à réaliser afin de participer au redressement des comptes publics, reste M. Macron, demande au gouvernement qu'il considère qu'il doit légitimement maintenir les objectifs. Enfin, on s'excuse de demander pardon, quoi. Donc, moi, en l'état, si vous voulez, je ne peux pas la voter, sauf si elle est amendée. Et si elle est amendée de manière un peu plus musclée. Parce que il y va aussi de la vie des entreprises locales, et pas seulement des bailleurs publics, vous l'avez souligné, des entreprises de travaux publics, des entreprises du bâtiment, pour qui les bailleurs sociaux sont des donneurs d'ordre très importants. Bon. Moi, je demande purement si on peut enlever notamment l'article 52 de la loi des finances, le projet de la loi des finances. On est aujourd'hui à Tarbes, notamment, sur les projets de NPNRU. Je rappelle, c'est le renouvellement urbain. Je peux vous dire que ces projets-là, déjà qu'ils étaient chaotiques, on peut les éliminer. Vous parlez de la santé de la CMI, effectivement, la CMI est en danger si jamais cette loi est appliquée. J'en donne pas plus cher pour l'OPH 65, monsieur Gavani. Parce que quand je vois vos prévisions sur votre capacité d'autofinancement dans les années à venir, évidemment que la première année, vous serez très impacté. Mais la deuxième année, c'est plus que vous soyez impacté. C'est-à-dire qu'on va chercher l'autofinancement avec la lampe frontale. En ce qui concerne maintenant les garanties d'emprunt qui sont amenées par les collectivités territoriales, moi je peux vous dire aujourd'hui ce que le département devrait payer pour la Sémitarde pour une annuité, c'est de l'ordre de 610 000 euros. Pouvez-vous me dire aujourd'hui quelle est une annuité de garantie pour l'OPH 65 pour le département? Voilà. Et pour la CMI, la ville de Bazette est impactée. La ville de Bordère a moindre coût. Évidemment, l'agglomération. Donc, il va falloir quand même que soit on muscle un petit peu la motion. Bon, vous direz, vous savez, une motion, ça reste une motion. C'est vrai. Mais en fait, quand on demande quelque chose qui est une bombe atomique hein, pour les sociétés de HLM départementales, hein, ça veut dire que c'est une faillite organisée par l'État. Alors que l'État avait diminué le nombre de bailleurs sociaux en France, ça je peux le comprendre. Mais alors il n'y a qu'à taxer les gros sur les bénéfices au lieu d'aller chercher les recettes sur ceux qui ont déjà peine à vivre. Et puis en considérant les marchés tendus, distendus, etc. Donc voilà. Donc moi, en l'état, j'en suis désolé, j'aurais souhaité aller dans le même sens à M. Gavani, mais en l'état, je ne peux pas la voter. Allez, c'est mou, hein, c'est du chocolat, hein, c'est pas une motion.
Chantal Robert-Rodrigue.
Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, après avoir lu cette motion, après avoir entendu toutes les explications que nous partageons tous ici de Jean Gavani, le groupe radical votera bien évidemment cette motion. Parce que cette motion, ce qui se passe actuellement dans cette loi de finances est particulièrement injuste. Injuste parce que on ne demande qu'aux organismes HLM. Injuste, car les trois organismes sociaux pourraient être mis en difficulté. Les trois organismes. Et donc, de fait, une garantie de la collectivité pourrait être appelée. Et puis j'insisterai plus particulièrement sur l'économie de nos départements et le chômage qui pourrait en suivre. Donc c'est la raison pour laquelle, bien évidemment, nous voterons cette motion. J'ai entendu ce que vient de dire M. Larrazabal et je comprends ce qu'il exprime. Effectivement, on pourrait effectivement la muscler un peu, mais vous savez, nous sommes dans le cadre d'une loi de finances. Et donc, ce n'est pas le texte même qui va faire changer le gouvernement. Voilà. Donc, nous la voterons en ce qui nous concerne en l'état.
Adeline Ayler, merci.
Monsieur le Président, chers collègues, mesdames, messieurs, ce dispositif est particulièrement antisocial. Il est méprisant envers les plus démunis et envers les territoires. Une fois de plus, le département va devoir faire face au manquement de l'État. L'activité sociale ne s'achète pas, elle ne se vend pas. Elle se travaille chaque jour sur le terrain avec raison et pragmatisme. C'est un mot à la mode, mais enfin, il est bien utilisé. Encore faut-il qu'il y ait une volonté politique, ce qui ne semble pas être le cas de ce gouvernement depuis le début de son quinquennat. Ce projet, entre autres, nous montre combien ce gouvernement est hors sol. J'aurais souhaité, comme David Larrazabal vient de le dire, une conclusion, Monsieur Glavany, un peu plus musclée aussi, quelque chose d'un peu plus fort. Le texte en lui-même, c'est vrai, ça, ce sont des petites excuses et malgré tout, on pense que ça va pas être trop, ça n'a pas prêté attention. Monsieur Marthe et moi-même, nous allons voter cette motion parce que elle est importante et elle met en péril bon nombre d'organismes sociaux. Voilà.
Merci. Jean Buron.
Oui, Président. Pour ce qui vous concerne, nous prenons en compte et nous partageons ce qui a été dit par Jacques Lavani, Chantal et Larrazabal. Mais nous voterons quand même cette motion parce que je crois que dans la situation actuelle, il faut que les élus marquent leur opposition à cette politique. Parce que ce coup bas envers les bailleurs sociaux, notamment, ça s'inscrit totalement dans la politique libérale et ultralibérale que va imposer Macron dans notre pays. Et c'est vrai dans tous les secteurs. C'est pas seulement vrai pour le logement. C'est la porte ouverte, en faisant mourir les bailleurs sociaux, c'est la porte ouverte au privé et aux grands groupes privés. Et c'est vrai pour tout. Si je veux prendre un autre sujet, c'est par exemple le transfert de compétences eau et assainissement. Puisque en début de semaine, la commission des lois de l'Assemblée nationale s'est opposée au projet de loi proposé par le Sénat pour le maintien des compétences eau et assainissement dans les compétences optionnelles. Et un argument, c'est de dire qu'on va supprimer 30 000 syndicats existants environ aujourd'hui, il n'en restera plus que 2 000. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des régies qui vont disparaître, des syndicats qui fonctionnent bien qui vont disparaître, et ça va être la porte ouverte pour les grands groupes comme Veolia, dans la Université des Eaux, etc. Donc, tout ça, ça s'inscrit, on pourrait parler du CETA, du traité de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne, tout ça va dans le même sens d'une politique ultralibérale. Alors, même si on peut effectivement penser que cette motion devrait être plus musclée et plus opposée, s'opposer plus fermement à ce projet de loi, nous voterons quand même cette motion, même si c'est un État, parce que nous pensons que les élus se doivent de montrer leur opposition à cette orientation politique.
Merci Jean Méron. Bon, je vois que Virginie Siani demande la parole. Je l'ai dit, une parole par groupe, à moins qu'il y ait un groupe politique nouveau au sein de l'Assemblée. Oui. Virginie.
Alors, je ne sais pas si ce Jean Glavany s'était C'est une nouvelle façon de faire. La motion n'a pas été lue, donc c'est juste un commentaire. Et je rappelle, quoi qu'on en dise, qu'il y a quand même d'autres sensibilités politiques dans l'Assemblée. Alors, bon, les choses vont s'organiser effectivement dans les mois qui suivent, mais vous comprenez que avec ce qui a été dit là, je connais quand même la stratégie logement du gouvernement, il y a beaucoup de contre-vérités. Et donc, dire qu'on va museler certaines sensibilités au nom de ce qu'il y a qu'une parole
non, par mais, groupe. Attention, Virginie, je rappelle que l'intervention, je ne coupe pas la parole, mais, l'intervention, c'est un élu par groupe politique. Bon, Jean Glavany, je considérais que la présentant, il faisait au nom du groupe socialiste. Bon. Sont exprimés David Larzabal au nom de républicain, au nom de son groupe. Indépendant et territoire, excusez-moi, j'avais perdu l'entente républicaine, si j'ose dire. Pas là le problème. Donc Chantal Robin Rodrigo au titre des radicaux de gauche. Je suis tout à fait disposé à entendre une sensibilité politique différente, mais bon, qu'elle soit clairement exprimée au nom de cette sensibilité.
Voilà. Oui, président, j'entends bien, mais je suis là quand même depuis 9 ans. Et la motion, elle est présentée, mais ça n'empêche pas, par la personne qui lit la motion, ça n'empêche pas que le groupe où la motion a été lue s'exprime.
Donc, le alors, président, si tu l'exprimes au nom du groupe socialiste, alors.
Moi, je.
Je précise que le groupe s'appelle groupe socialiste d'apparenté.
Excuse-moi, mais comme il y a plus d'apparenté que de socialiste, je préfère que ça soit dit à chaque fois qu'on en parle. Merci beaucoup.
Mais bon, il faudra quand même clarifier ces situations-là, je passe dans un avenir assez proche pour que on sache qui s'exprime au nom de quoi et au nom de qui.
Oui, ça sera fait, président. On va se dépêcher de clarifier les choses. Mais c'est vrai que quand j'entends bombe atomique, quand j'entends antisocial, vous comprenez quand même, en plus, ce sont des termes quand même forts quand on sait ce que c'est. Hein. Et donc, ne pas pouvoir répondre, c'est quand même assez.
Antisocial, tu perds ton temps.
Assez contraire. Donc, je ne sais pas si je peux continuer
ou pas. Vas-y. On est dans une assemblée totalement démocratique. J'aime pas s'assurer les gens, les empêcher de s'exprimer. J'aime bien savoir au nom de quoi, au nom de qui c'est tout.
Oui, président. Alors, je vais le faire franchement sans polémique, hein, juste de façon.
Bien sûr.
Avec de la pédagogie pour rappeler la stratégie logement du gouvernement. Alors, donc, c'est pour cela que je ne dis pas socialiste et apparenté. Pour rappeler qu'en matière d'antisocial, donc juste expliquer ce qui se passe. Il faut savoir quand même que l'État tiendra compte effectivement de tout ce qui est social dans la mesure où déjà les aides seront calculées sur la base des revenus actuels et pas des revenus N-2 comme ça c'était le cas auparavant. 35 ans et nous savons du ping-pong qu'on a eu et nous savons dans quel état se trouve notre pays aujourd'hui. L'avènement, la présence de Macron à l'Élysée demande un peu d'humilité dans toutes ces attaques. Je rappelle aussi que dans cette stratégie de logement du gouvernement, l'État a prévu l'abattement fiscal de 100% pour les cesseurs réalisés en vue de construire du logement social. Donc ce n'est pas du tout un gouvernement antisocial. Je rappelle également que pour l'accès des locataires à la propriété, c'est l'État qui achètera avant de revendre. Donc les organismes HLM ne perdront pas du tout en recette par rapport à l'achat, par rapport à la vente des logements. C'est l'État qui rachète tout, qui paye l'organisme social et qui fait la revente. Et c'est l'État qui met en place également la copropriété de ces logements. Je rappelle aussi que pour 2016, 18 milliards d'euros, c'est le montant des aides au logement. 18 milliards d'euros. Et ça n'améliore toujours pas le poids de la dépense de logement dans les ressources des foyers. Donc, on a vraiment besoin d'une réforme structurelle. Elle est indispensable. L'État met en avant d'abord le locataire. Il n'y aura pas de baisse de pouvoir d'achat dans la mesure qui est mise en place. On ne peut pas donc parler de antisocial. 40 000 logements, c'est PDP et l'AI, c'est ce qui est prévu comme construction par an dans les 5 années à venir. C'est l'État qui prendra en charge la rénovation énergétique des logements sociaux. Alors, il y a ce que l'État laisse aux organismes sociaux et ce que l'État prendra également à sa charge. Alors, lorsque vous parlez également de mesures antisociales, je rappelle, ma chère Adeline, que l'État met en place ce qu'il appelle vis-aller, qui offre une garantie locative gratuite à tous les jeunes, à tous les étudiants, les personnes fragiles de moins de 30 ans, également tous ceux qui sont en formation professionnelle, et également la possibilité pour ceux qui ont des formations professionnelles et qui ont besoin juste d'un temps court de logement, d'assurer également ces logements courts de moins d'un an à toutes les personnes concernées. Franchement, le terme d'antisocial ne va pas avec la situation actuelle. Que les bailleurs sociaux disent le livret A ne suffit pas, l'allongement de la dette ne suffit pas, je veux bien qu'on en rediscute, oui, mais c'est 40 pages de la stratégie logement du gouvernement et dire on le met à la poubelle, c'est antisocial, ça n'est pas juste. Nous savons également que le dispositif du taux après zéro devait prendre fin le 31 décembre de cette année, de même que la loi Pinel. Le gouvernement, effectivement, prolonge sur 4 ans ce dispositif, alors qu'il prenait fin au 31 décembre. Enfin, je veux juste vous rappeler qu'il va se mettre en place un fichier de transmission unique et automatique de données sociales, donc il va être travaillé pendant l'année 2018 et qui sera mis en place durant l'année 2019 de manière à adapter les aides aux besoins du moment. Enfin, sachez qu'il y aura 15 territoires volontaires pour une mise en œuvre accélérée en 2018. Alors, moi, ce que je vous demande, c'est que notre département s'inscrive dans ces territoires volontaires s'ils y sont, c'est une très bonne chose, et donc de façon à mettre en place le plan quinquennal. Donc, je ne sais pas si ça rentre dans ce plan quinquennal de la plateforme territoriale d'accompagnement des collectivités et des acteurs locaux. Donc, regardons franchement la totalité de ce plan logement, qu'il y ait des points qui ne vous satisfont pas. Ok, mais de dire qu'il s'agit d'une bombe atomique, qu'il s'agit de vieux plan antisocial, moi, je suis quand même assez surprise de l'agressivité de vos attaques. Emmanuel Macron antisocial, moi je veux bien. Mais
il faut conclure maintenant.
Moi, je vais conclure par une citation du candidat Macron. 31 janvier 2017. Le logement, ce n'est pas que le logement. Le logement, c'est la place qu'on a dans la société. C'est son enracinement. C'est la place qu'on a dans la vie.
Très bien, merci. Bon.
Compte tenu de tout ce que j'ai entendu dans les commentaires, je ne voterai pas la motion.
Bon, mais à ce moment-là. À ce moment-là, peut-être que la motion risque d'être reconsidérée à ce moment-là. Bon, je vois un clignotant vert qui s'allume là-bas, celui de Gilles Grasstaille. Bon, normalement, ce groupe s'est exprimé, ton groupe s'est exprimé autour au titre d'indépendant et territoire, à moins que l'un soit indépendant et l'autre territoire. Bon, allez, Gilles Grasstaille, rapidement.
Oui, exactement. Dans indépendant et territoire, il y a indépendant, donc nous pratiquons l'indépendance, et par conséquent, nous pratiquons l'indépendance de pensée et aussi l'indépendance de position. Donc, à ce stade du débat, étant donné que de toute façon, il y a d'autres prises de parole, je ne vois pas en quoi moi je me priverai d'intervenir. Je tiens à dire, d'une part, que sur la présentation qu'a fait Jean Gavadi de cette motion, je partage 100% de ce qu'il a pu dire. C'est vrai que par ailleurs, le complément qu'a apporté David Larrazabal, je le partage aussi parce que je considère que la situation dans laquelle nous sommes par rapport, enfin le projet en tout cas, qui se présente par rapport aux organismes HLM en général, est un projet qui est catastrophique pour une grande partie de ces organismes. Bon, comme d'habitude, et il faut quand même le souligner, comme d'habitude, l'État, et que ce soit l'État Macron comme les États précédents, que ce soit Hollande ou Sarkozy, moi je n'ai pas de scrupule à mettre tout le monde dans le même sac, tout le monde a fonctionné de la même façon. C'est-à-dire qu'on a des gouvernements qui nous pondent des mesures sans avoir la moindre idée des conséquences des mesures qu'ils prennent. Aujourd'hui, on a une mesure qui est non discriminante. C'est ça le principal problème. C'est que l'on aille ponctionner des organismes qui, par ailleurs, n'ont pas, justement, alors que c'est leur rôle, eu le caractère suffisamment social comme ils auraient dû l'avoir, que certains aient fait des réserves alors que ce n'est pas leur rôle non plus. Très bien, pourquoi pas? Mais qu'on épargne ou qu'on mette de côté un certain nombre, et c'est une majorité, et c'est tous les organismes qui nous concernent dans ce département, tous ceux qui font leur boulot correctement et qui ont fait leur métier d'organisme HLM, c'est-à-dire à caractère social d'abord et avant tout, et qu'on les épargne par rapport à ça. Donc derrière cette mesure se cache en fait un mode de fonctionnement qui est systématique, et on l'a vu ces dernières années, pour toutes les réformes qui ont été mises en œuvre, à chaque fois on nous fait le coup. C'est-à-dire qu'on balance des propositions, des projets, des choses dont on ne mesure pas les conséquences, et derrière, une fois que c'est sorti, eh bien, il faut en tirer il faut après coup se poser la question de se dire et comment on va faire? On le verra prochainement. On va avoir nous aussi à discuter, pas lors de cette session, mais de la prochaine, du budget, et on verra que là aussi, le projet de loi de finances 2018 ne nous épargnera pas. Et là encore, ça part du même principe. Alors moi, je tiens à dire que si sur le fond, je partage les remarques qu'a fait David Larrazabal, la majorité du groupe, malgré tout, votera cette motion. La votera, non pas pour dire elle est parfaite, c'est pas le sujet, mais c'est pour dire qu'on souligne un problème auquel nous nous associons, parce que je pense que nous partageons globalement les inquiétudes que soulève cette motion.
Merci, Gilles Crasteuil. Bon, Jean Gavani demande une fois la parole pour proposer un amendement.
Écoutez, merci, Monsieur le Président. On n'est pas des enfants de cœur les uns et les autres. Vous avez noté que la motion posait le problème, mais il le disait dans des termes modérés. Alors c'est trop modéré au bout de certains, mais c'était modéré volontairement. Vous avez senti un décalage entre la conclusion de la motion et mon intervention de commentaire. J'aurais pu la lire, Virginie, du début à la fin, mais enfin je pense que vous êtes capable de lire sans moi et mes commentaires me semblaient plus utiles. Mais enfin, peut-être que je me suis trompé sur le sujet. Mes commentaires étaient sans doute plus sévères. Et donc, naturellement, ma conclusion aurait été plus sévère aussi. Si, de toute façon, compte tenu de cette modération qui avait pour objectif de recueillir un consentement, j'allais dire consensuel de l'ensemble de la majorité, de l'Assemblée même, c'est-à-dire une unanimité, si compte tenu de ça, de toute façon, on n'a pas le vote, alors moi, je dis les choses plus clairement. Et je propose de dire dans la conclusion, pour aller dans le sens, je pense, unanime, y compris des radicaux de gauche et de mauvais savoir, ou du groupe communiste que je devine, etc., de dire. Dans la conclusion, le Conseil départemental des Hautes-Pyrénées réussit en assemblée plénière, conscient des efforts budgétaires à réaliser afin de participer au redressement des comptes publics, tout ça on n'est pas irresponsable, demande au gouvernement de renoncer aux mesures de la LFI, de la loi de finances initiale, et d'ouvrir une négociation avec l'ensemble des acteurs du logement social pour définir un dispositif qui ne porte pas atteinte à l'action économique et sociale des organismes HLM et à l'activité du bâtiment dans nos territoires. Comme ça, les choses sont plus claires, c'est pas la peine de jouer de la mandoline sur les fenêtres de ceux qui veulent que. De toute façon, ils voteront pas et on dit des choses plus clairement. Voilà. Donc, je vous propose cet amendement.
Bon, bah écoutez, je vous propose de passer au vote. Comment ?
Je comprends pas ce fonctionnement. Ce qui est en place, c'est pas la
la parole deux fois pour dire la même chose. Au moins, quand on exprime des choses différentes. Quoi. C'est possible, quoi, quand même. Quoi.
Alors, qu'est-ce que tu proposes?
Non. Alors, je voulais intervenir, compléter, puisque là, il y a
la renommée. Que ça sera la dernière fois qu'on présente les conseils sur ces bases-là. Hein. Je vais vous faire un rappel au règlement pour la prochaine fois. J'espère qu'on sera qui est dans quel groupe et que les choses soient totalement claires, parce que là, on est dans une situation ambiguë qui est celle, bon, je ne vais pas faire de dessin, vous avez bien compris. Bon, il faut que la prochaine fois, il y aura un rappel au règlement. Alors, on te laisse intervenir une fois encore, hein. Mais c'est la dernière fois, parce qu'on ne pourra pas marcher sur ces bases-là. Et ensuite, on vote.
C'est très simple, Président, mais je veux dire, on ne peut pas regarder un texte par la petite lorgnette et pas voir l'ensemble du texte. C'est pas possible, c'est pas honnête. Je veux dire, à un moment donné, quand un texte fait 50 pages et qu'on extrait effectivement la partie qui ne plaît pas pour dire j'ai lu ça, c'est pas beau, c'est pas bien, je suis pas content. Ok, on peut faire ça, bien sûr, mais franchement, quand on lit l'ensemble du texte, on voit bien qu'il y a des avancées qui sont importantes. Je veux dire, ok, il y a 7 milliards d'euros d'économies sur les APL. Mais inversement, il y a 5 milliards d'euros qui sont apportés pour la rénovation des logements urbains. Des logements. Moi, je veux bien qu'on calcule tout en négatif, hein, d'accord, parce que c'est systématique, la calcul en négatif, c'est des moins. Et puis, à côté du plus, on fait comme si on ne les voyait pas, et on dit, non, mais je vois que les moins, il y a des moins. Non. Faut être honnête, quand on a 50 pages à lire, on n'en extrait pas 3 lignes pour dire, voilà, ben, j'ai lu 3 lignes, c'est bon, je sais tout. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand on parle entre nous, ici, on est bien au courant que l'objectif, notamment de toi, Président, c'est d'améliorer la situation économique de ton territoire. C'est ton territoire. Alors, franchement, c'est l'objectif départemental. Je veux dire, qu'on a systématique et qu'on partage. On ne peut pas nier que le Président, cette fois-ci de la République, a aussi l'objectif d'améliorer la situation de son territoire, qui est la France. Et pour ça, ça passe par des changements. Quand on a un pays qui a un taux de prélèvement, prélèvement obligatoire de 54,7%, qui est le plus élevé au monde, et qu'on nous dit tout va bien dans le meilleur des mondes, hein, tel, comment il s'appelle, Panis dans Candide, franchement, non mais c'est ignorer, c'est se fermer les yeux devant la réalité. L'objectif est de baisser ce taux de 1%. 1% pour se ramener, ok, on sera peut-être plus le premier, on sera peut-être le deuxième. Et bien, comme on l'a fait au département. Au département, on était 9e, le taux le plus élevé, on descend lentement parce qu'on fait des efforts, parce que notre objectif, c'est le développement économique. Et au niveau national, c'est pareil. Alors, moi, je suis désolé, je ne peux pas avoir un discours ici qui dit voilà, on va faire le développement économique, etc., on va tout faire pour, on fait des 0% sur chacun de nos budgets, malgré les augmentations des coûts, il n'y a que le social sur lequel on fait 3%. Et surtout, le reste, on fait 0%, on permet des économies dans certains domaines, donc on fait des efforts, et dire au national, mais c'est pas grave, au national, par contre, on peut dépenser sans compter. Et puis chacun voit sa lorgnette, chacun voit son truc, dis-moi, mon truc, c'est logement, moi, mon truc, c'est ceci, donc je veux ceci, et à chaque fois qu'on fait, moi, je veux ceci, moi, je veux ceci, moi, je veux cela, et bien on obtient 54,7% de prélèvement obligatoire. Voilà. Et si l'objectif, et je suis surpris que l'entente républicaine dise que c'est un scandale quand on dit on veut réduire les dépenses publiques, Je suis surpris. Je suis désolé qu'il n'y ait pas monsieur. Je démarre parce que c'est un interlocuteur que j'apprécie. Mais au moins, on aurait une explication sur le fait que vous êtes favorable à maintenir les impôts à ce niveau si élevé en France.
C'est pas le sujet.
Je l'apprends. C'est une nouvelle intéressante.
Stop.
Mais c'est pas une bonne nouvelle.
Stop.
C'est pas le sujet.
Stop.
Non.
Stop. Vous n'avez pas la parole, je la coupais maintenant parce que je viens. Non, mais ça va. Attends. Alors, maintenant, la motion, je la mets au vote. Parce que, amendée, la motion amendée, je la mets au vote. Alors, ceux qui êtes pour le manifester, levez la main. Abstention. Refus de vote. Adopté, et on va passer à l'ordre du jour de notre session. Et on va